Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 15 juillet 2019, un avocat marseillais poste sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle communément un coup de gueule. Il y dénonce des dizaines de cas de placement d'enfants qu'il juge injustes ou abusifs. Aux médias qui le contactent alors, il dit « J'ai accompagné des gens qui ont pris 30 ans aux assises, mais rien n'est plus violent que ce qui peut se passer dans le bureau des juges pour enfants. » Au début, poursuit-il, c'est une connaissance qu'il a contactée pour une affaire, puis le bouche à oreille a fonctionné et depuis 2 ans environ, il a traité environ 200 dossiers de placement d'enfants. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais sa colère ne faiblit pas. Il met en cause le caractère secret de ses audiences à huis clos, d'où rien ne filtre, où le juge a tout pouvoir, mais pas beaucoup de moyens, de temps, trop de dossiers. Il pointe des décisions injustes, des placements dans des foyers ou des familles d'accueil, où les enfants sont maltraités parfois, subissent d'autres violences, d'où ils fuguent. Il évoque des décisions violentes qui prennent, parfois encore, la place de mesures d'accompagnement positives, d'aide au domicile, de soutien à des parents en difficulté psychologique, financière ou domestique. Sont montrés du doigt, enfin, et c'est un grand classique, des professionnels qui ont parfois moins peur de prononcer un placement potentiellement abusif que de passer à côté d'une maltraitance, et surtout d'en être tenu pour responsable. On se couvre, on se protège plus qu'on ne protège les enfants, on prend des précautions qui, hélas, peuvent tourner au drame. Arguant que les enfants placés n'ont aucun droit, cet avocat a déposé une proposition de loi visant notamment à ce que les défenseurs aient accès au dossier de l'aide sociale à l'enfance, bien avant l'audience, et à ce que les juges soient obligés dans un certain délai de répondre aux demandes des parents. Affaire à suivre. En attendant, il n'y a à ma connaissance aucune enquête indépendante et précise consacrée à la question de ces placements jugés abusifs. Mais les associations sont vent debout, actives et documentées. Tout de suite donc, 2 histoires très différentes de placements que les parents jugent injustes ou abusifs, des batailles qui n'ont pas encore de fin et dont on ne connaît pas non plus le fin mot, que je vous laisse écouter sans préjugés tout de suite dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Aurélie, je suis maman de 4 enfants, j'ai 27 ans. Ma première, je l'ai eue à mes 18 ans. Et aujourd'hui, la petite dernière de la famille, elle a 8 jours.
Je m'appelle Maxime, j'habite à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme. Je suis marié avec Aurélie, je suis papa de 4 enfants, Émilie, Rose, Mélanie et Marie. J'ai 24 ans, actuellement je suis en CDD d'insertion. En tant que maraîcher bio, je gagne 1026 euros. À nous deux, voilà, nous vivons avec 1900 euros tous les mois. Donc, nous avons une situation financière assez stable. Avec Corinne, nous sommes rencontrés dans une boucherie, sur notre lieu d'apprentissage que nous avions. Donc, moi, j'avais presque 15 ans. Aurélie avait un petit peu plus de 18 ans. Et direct, le feeling est passé, en fait. Donc, moi, à la base, je suis un enfant battu. Par mon père. Donc, du coup, j'ai fait appel aux services sociaux et ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit je faisais une crise d'adolescence, j'étais à fleur de peau. Du coup, suite à mon appel aux services sociaux, mon père a décidé de me mettre à la porte et a obligé ma mère à faire pareil. Aurélie avait son appartement. Donc, si Aurélie n'avait pas été là, je serais à la rue. On a eu une fille en premier et quelques années après Émilie, je dirais plutôt quelques mois, pardon, Aurélie a été enceinte donc du coup de Rose, notre deuxième. Donc, elle est née en 2014. Et puis entre guillemets, juste après, quoi, en 2016, Mélanie est arrivée. Moi, j'ai fait un burn-out, un papa blues et une dépression en même temps. Donc très mauvais cocktail. En fait, mon père le savait, et du coup, il a fait en sorte à me faire revenir au bercail, donc il m'a fait quitter la maison, quitter Aurélie, les filles. J'étais très fragile en fait. Et il en a profité un maximum, en fait. Parce qu'il m'a fait démissionner, il m'a fait retirer du bail, il en a profité aussi pour me soutirer de l'argent aussi. Il m'a volé quand même pas mal d'argent, là aussi. Oui, il en a profité un maximum. Et en fait, j'ai eu Aurélie au téléphone. Et ça m'a redonné la raison. Donc, je suis vite revenu à la maison. Et une semaine après, en fait, on avait rendez-vous auprès du tribunal pour enfants. C'est mon père qui a dénoncé aux services sociaux. C'est mon père qui a aussi osé sortir des diffamations calomnieuses auprès de la juge pour enfants. En stipulant qu'en quoi, 6 ans, Aurélie et moi, on dormait sur un matelas, même le sol rempli de pisse de chien. Il y allait fort. Hein. Il y allait très fort. Et le pire, ça, c'est qu'en plus, la juge pour enfants l'a cru. C'est simple ça, c'est qu'en plus, la juge pour enfants l'a cru. Et en fait, on nous a même pas laissé le temps de prendre notre défense, en fait. Mon père a toujours été contre notre union, donc il a toujours tout fait pour faire en sorte à ce qu'Aurélie soit traitée comme moins que rien auprès des services sociaux, à sortir des propos diffamatoires autant envers Aurélie qu'envers moi, pareillement. Alors du coup, le jour de l'audience, on nous a dit qu'en quoi c'était soit on acceptait le placement et les filles restaient encore avec nous le temps qu'ils trouvent un endroit où c'est qu'elles seraient, soit on refusait le placement et elles étaient directement placées en foyer le temps qu'ils trouvent un endroit où... Donc on avait le couteau sous la gorge, hein, littéralement. On a accepté le placement, du coup on a profité un maximum le temps qu'ils trouvent un endroit où c'est que les filles seraient. Donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, nous on avait l'habitude de les emmener faire du manège quand il fait beau, une fois de temps en temps en fait. Et là, pendant une semaine et demie, ben, en fait, c'est du manège tous les jours en fait. Voilà. On les a fait profiter à fond de tout ce qu'on pouvait leur donner. Et on a commencé à leur dire, voilà, vous allez aller dans un endroit où c'est que vous allez être accueillis, parce que ben, la juge elle a décidé que vous habitiez plus avec papa-maman pendant quelques temps, parce que papa-maman, ben, ces derniers temps, ça va pas très fort, donc c'est temps que papa-maman, ils puissent remettre un peu tout d'aplomb. Voilà, je pense qu'à côté, elles ont compris un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Et du coup, il y a un jour, c'est qu'on nous appelle, au bout d'à peu près une semaine et demie, on nous appelle, on nous dit, voilà, tel jour, vous venez à la direction territoriale pour le placement de vos enfants. Donc, on a dû signer... voilà, la paperasse habituelle, l'autorisation de soins et tout. On a rencontré la famille d'accueil de Mélanie, qui elle est partie. Et après, on nous a emmenés sur le lieu de vie où c'est que Émilie et Rose, elles sont d'ailleurs toujours actuellement. On a rencontré la directrice du lieu de vie. Voilà, elle nous a expliqué le mode de fonctionnement qu'ils ont là-bas. On a de très bons rapports avec la famille d'accueil de Mélanie et le lieu de vie, mais par contre avec l'éducatrice de la ZEU, là, pas du tout.
Ça fait combien de temps qu'elles vivent plus avec vous ?
Alors, Émilie, Rose et Mélanie, ça fait un an et demi qu'elles sont plus à la maison. Ça fait un an et demi aussi qu'elles demandent de revenir, mais les services de la ZEU leur disent qu'en fait, c'est des caprices qu'elles font. Voilà, donc la voix des enfants n'est pas entendue.
Donc on vous a retiré les enfants avant la naissance de la quatrième.
C'est ça, on les a retirés de presque 2 ans avant la naissance de notre quatrième. Donc quand on l'a appris, donc j'étais à quelques semaines de grossesse, donc on était un peu perplexe parce que vu comme les deux trois premiers étaient placés, comment on va l'accueillir, comment on va vivre son avenir, comment on va l'annoncer. Donc on a préféré dire elle va faire partie de la famille et après on va se battre pour elle. Le 14 février, toute la matinée, j'ai eu des petites contractions. Donc après, à 14h, j'ai prévenu mon mari que comme quoi, ça va être imminent, le bébé va arriver. J'arrive à la maternité avec les pompiers. Donc après 2 heures de travail, notre petite puce, elle est enfin arrivée. Donc après, ça a été très vite. Donc après, on me l'a mis sur le ventre. Mon mari a coupé le cordon, premier enfer qui a commencé. Le placenta s'est pas totalement décollé. Donc en urgence, une rachianesthésie pour vite endormir. Et donc c'était un peu compliqué à ce moment-là. Donc une fois que le placenta, ils ont réussi à le dégager. Donc on l'a remis dans les bras. J'ai pu l'allaiter un peu jusqu'à qu'elle puisse s'endormir. Donc là, jusqu'à là, c'était le plus beau moment. On est resté 5 minutes avec mon mari dans la chambre, le temps que déjà moi je me remette de la rachianesthésie, mais en plus avec notre fille comme il se doit. J'ai demandé à mon mari qu'on descende, prendre un peu l'air, puis qu'on puisse appeler nos proches pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on leur a dit, ça y est, elle est là, ils étaient prêts tous à descendre. Et malheureusement, 1 heure après, nous sommes remontés et l'aide sociale à l'enfance malheureusement était là. Comme on a eu déjà 3 enfants placés, on savait très bien qu'il fallait normalement un papier au préalable pour annoncer le placement d'un enfant, et là, qu'il n'a pas eu lieu. Il n'y avait ni de papier au préalable, ni de policiers, ni de qui que ce soit, des agents qui auraient dû être présents. À 1h du matin, il y en a eu confirmation du procureur de la République de Valence qu'on n'aurait plus jamais le droit de l'avoir jusqu'à l'audience. Ça fait 8 jours aujourd'hui que je ne dors plus, et j'ai fait des nuits blanches. J'ai du mal à m'endormir. Le peu que je m'endors, c'est des cauchemars. Je revois notre fille, qu'on l'accompagne dans la chambre et qu'on enlève. Aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que d'avoir ou accouché d'un bébé mort ou d'un bébé comme si j'étais une femme qui était prête à donner son enfant. Aujourd'hui, ce qu'on nous reproche, c'est que soi-disant, il manquerait du matériel pour les enfants, qui apparemment mettrait en danger psychologiquement et affectif, ce que l'article 375 aujourd'hui préconise, quoi. Mais réellement, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste des suppositions, mais c'est pas ça qui donne un critère pour un placement. Parce qu'aujourd'hui, malgré plusieurs services médicaux et sociaux au domicile, ils n'ont aucun critère actuel à part le passé de mon mari pour nous reprocher. Quoi.
Le passé d'enfant battu.
C'est ça.
Alors moi, quand on a eu rendez-vous avec la dame de la direction territoriale, je lui ai demandé si c'était possible de faire un protocole d'accord avec... avec l'ASE, donc elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais exactement. Donc je lui ai demandé une SAPMF, donc en fait un placement à domicile, donc avec un agent de l'ASE qui viendrait tous les jours à la maison, voir comment ça se passe, ça n'a pas été entendu. Nous avons eu une audience ce vendredi après-midi, qui dit que du coup, on n'a pas le droit ni de voir ni d'appeler Émilie, Rose et Mélanie, mais par contre on a droit à voir Marie 1 heure toutes les semaines et avec 2 appels téléphoniques par semaine auprès de la maison des enfants de Brûlé-Valence pour avoir des nouvelles de Marie, mais actuellement on ne sait pas encore quand est-ce que ça va prendre effet pour qu'on puisse voir Émilie, Rose et Mélanie. Il faut avant qu'on passe une expertise psychiatrique, mais pour l'instant, on ne nous a pas donné de rendez-vous. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir voir Émilie, Rose et Mélanie.
Je m'appelle Rémi, j'ai 31 ans et je suis charpentier. Donc je suis originaire de Bordeaux. Donc moi j'ai rencontré mon épouse sur internet au moment où je devais partir à l'armée. Et on a fait connaissance 2-3 mois avant à peu près. Et notre relation a été fusionnelle dès le début. Et là a commencé notre vie en concubinage et après, quelques années plus tard, l'arrivée de Nicolas. le 12 novembre 2018. Donc Nicolas a un mois et demi à ce moment-là. Pendant que Mélissa était partie, donc le matin on lui avait donné le biberon, on s'était occupé de lui, on avait fait le ménage, enfin, les activités ménagères, tout ça. Mélissa était partie du coup chez ses parents, donc elle m'avait laissé Nicolas avec moi dans sa balancelle électrique en position 1, donc ça balançait tout doucement. Même pas une heure après son départ, eh bien, le petit commençait à pleurer. Et donc du coup, j'entends pleurer, je me retourne, je regarde voir s'il avait sa chuchu, sa pituzette. Donc il l'avait pas, je vais pour lui mettre, il la recrache, il continue à pleurer. Et je me lève pour voir un peu ce qu'il avait. Et au moment où je me baisse pour le regarder, eh bien, il m'a poussé un cri super aigu, enfin, un cri qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc du coup, je le détache de sa balancelle électrique. Et au moment de le prendre, il me repousse le même cri. Donc je l'ai sur moi et à un moment donné, en fait, il pleure plus, il fait plus rien. Il était tout raide, un côté vachement tendu. Et plus aucune réaction, les yeux fermés et pâle. Là, je commence à m'inquiéter. Donc je mets mes mains sous ses aisselles avec donc, du coup, les deux doigts qui maintiennent donc, les cervicales. Et je le stimule un peu, donc d'avant en arrière, pas violemment, mais juste de manière d'avoir une réaction. Au bout de 2 secondes, j'ai une réaction. Il commencerait les yeux à repleurer, donc du coup, je pars à la salle de bain, je vais pour le poser sur la table allongée. Et au moment où je le repose sur la table allongée, ben, du coup, il commence à pleurer fort. Donc je me suis dit, au cas où je lui fais mal, je le remets sûrement en position rototo. Donc là, j'appelle Mélissa pour qu'elle revienne en disant que le petit il n'est pas dans son état normal. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Mélissa arrive. Donc moi, pendant ce temps-là, je faisais les 100 pas à la maison avec le petit, complètement stressé et déboussolé. Et donc Mélissa arrive, au moment où elle arrive, et bien, en fait, il commence à convulser, il avait les yeux qui partaient, qui révulsaient en arrière. De là, on appelle le SAMU. Donc suite à ça, donc il y a les pompiers qui arrivent dans un premier temps, après il y a un médecin et ensuite le SAMU. Donc ils décident de le transférer à l'hôpital. Nous le soir on rentre chez nous parce qu'on pouvait pas rester, il n'y avait rien pour qu'on puisse rester avec le petit. Donc le lendemain, donc la neuropédiatre voit Mélissa et commence à lui dire les diagnostics, donc notamment les hématomes sous-duraux avec hémorragie rétinienne, c'est les saignements au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc du coup, un signalement va être fait. Donc là, elle pose des questions, à savoir si on l'avait secoué, savoir si on l'avait fait tomber, parce que du coup, pendant qu'elle avait l'entretien avec Mélissa, moi j'étais au téléphone aussi, donc du coup on faisait comme une espèce d'appel visio. Et donc du coup, on disait que non, qu'il n'est jamais tombé, qu'on l'a jamais secoué, enfin personne ne l'avait gardé non plus, hormis les grands-parents quand nous étions partis une fois à un concert. Ah, c'est bizarre, parce que généralement, quand il y a des hématomes sous-duraux, hémorragie rétinienne, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, les jugements ont commencé à arriver, forcément, en sachant que Nicolas, pendant les 2 jours où il est resté là-bas, son état se dégradait. Donc il a été héliporté au CHU de Bordeaux, où là-bas il a passé la première soirée du coup en réanimation. Donc là, pareil, les jugements, on voyait les regards qui commençaient à arriver vers nous, on voyait qu'il ne nous laissait jamais tout seul avec le petit, toujours en train de nous surveiller, la porte ouverte, enfin, il nous faisait des petites remarques, notamment un chef de service qui nous disait « Ah, c'est sûr que pour nous ce serait plus simple si vous avouez qu'il est tombé. » Et nous, on n'était pas au courant en fait qu'à ce moment-là, il y avait un signalement qui avait bien été fait. et que le petit, en fait, était déjà placé à ce moment-là. Il était placé, en fait, sous la responsabilité de l'hôpital. Suite à ça, nous, le lendemain, il y a les gendarmes qui sont arrivés au domicile pour perquisitionner la maison, prendre des photos et pour que le soir, comme moi je travaillais, j'ai dû revenir du travail pour ça, pour refaire une audition libre le soir avec le JDE, le juge des enfants. Pendant l'hospitalisation donc, de mon fils à Bordeaux, il y a un médecin légiste qui est venu pour faire des examens et donc qui pour lui a diagnostiqué le syndrome du bébé secoué ou secouement non accidentel. Donc on est questionné, sachant que nous n'avons rien fait, donc nous disons que nous sommes innocents. Hein. Donc le lundi, on apprend que Nicolas sera placé donc, jusqu'au mois d'avril 2019. On peut le revoir, mais au début, donc, c'est une fois par semaine, une heure. Donc pour eux, moi, je l'aurais secoué, puisque ce qu'il faut savoir dans ces situations-là, c'est le dernier qui était en compagnie du bébé qui convulse et qui est coupable. Hein, donc ben, ça ne pardonne pas, hein, on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, donc tant pis pour la personne. Quand on a vu ça, ce qui nous tombait dessus, oui, on était complètement déboussolés, frustrés, et savoir qu'on est impuissant face au fait qu'on nous enlève notre fils comme ça, on se dit, c'est un monde de fou, quoi. Enfin, on voit ça que dans les films. Donc bon, bref, Nicolas est placé en famille d'accueil, donc il continue à avoir des examens médicaux pendant ce temps. Donc tout est en train de se résorber petit à petit. De là, la famille d'accueil part en vacances avec lui vers Toulouse. Et quand il revient le 28 décembre, on a une visite médiatisée avec lui. Et là, lors de la visite, on constate qu'il n'est pas bien, il pleure beaucoup, et on voit que quelque chose ne va pas. Donc du coup, on le signale à une éducatrice qui était là à ce moment-là, parce que c'est pas celle avec qui on avait affaire d'habitude. Donc il fait ses examens médicaux et là on constate qu'en fait son saignement, il y a eu des ressaignements qui ont été multipliés par 3. Donc là, nous, paniqués comme pas possible, il devait partir en urgence encore à Bordeaux pour cette fois-ci subir une intervention neurochirurgicale où on lui a posé un drain. Donc là on se dit dans notre malheur quelque part... Bon, mais peut-être qu'ils vont comprendre, il est en famille d'accueil, il y a un nouveau saignement, ils vont comprendre qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait. Non, en fait, pas du tout, parce que pour eux, c'est une suite logique. Donc moi, j'ai envie de dire, quand on sait qu'il y a une suite logique qui va arriver, pourquoi ne pas avoir posé la dérivation lors de la première hospitalisation ? Mais rien. Donc du coup, on a quand même fait des recherches, et c'est là que, grâce à l'association Adikia, ils ont pu nous orienter vers d'autres professionnels indépendants qui ne font donc pas partie de la haute autorité de santé. Donc il nous a fait une synthèse et pour lui, donc Nicolas, une pathologie dit gros mal. Quand Nicolas a été hospitalisé la première fois, il y a un médecin du service qui avait aussi parlé de cette pathologie. Chose qui a été oubliée ou balayée pendant les expertises. Donc il y a eu le placement qui a été effectué, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, après, au mois de mars, j'ai eu une garde à vue, où là, ben, j'avais justement la synthèse de ce professeur-là qui pouvait expliquer, parce que nous, comme on sait qu'on n'a rien fait, on se dit il a forcément une pathologie, il est malade, voilà. Donc, chose qui n'a pas été... très bien apprécié par les gendarmes, parce que pour eux, ce professeur-là est là pour innocenter des personnes coupables. Toutes les questions sont axées, savoir si je suis quelqu'un de violent ou pas, savoir si je joue aux jeux vidéo, est-ce que quand je perds, je m'énerve, est-ce que je jette la manette, est-ce que je casse la télé, comme je suis quelqu'un qui fait du sport, si je vais pas au sport, est-ce que je suis frustré, si je suis frustré, comment je me comporte. Quand j'étais petit, comment j'étais, Est-ce que j'ai une bonne éducation? Enfin, donc du coup, ben, j'ai fait ma nuit dans une cellule et le lendemain, j'ai été transféré devant le juge d'instruction. Donc suite à ça, ben, en fait, j'ai une mise en examen avec plusieurs ordonnances, me faire suivre psychologiquement, pointer une fois par mois à la gendarmerie et le truc le plus dur, hein, parce que c'est le troisième le plus dur, c'est de ne plus pouvoir entrer en contact avec mon fils sans qu'il y ait une personne qui soit apte judiciairement, c'est-à-dire que me retrouver moi tout seul avec Mélissa et mon fils tous les trois, c'est impossible. Alors mon fils est resté quasiment 11 mois en famille d'accueil. On n'a pas pu faire son premier Noël, son anniversaire non plus. Ça nous a été arraché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est là aussi, on se dit c'est peut-être le destin qui veut ça, mais Nicolas, toutes ses premières fois, en fait, il a attendu d'être avec nous pour les faire. C'est-à-dire faire ses premiers pas, il a attendu qu'on soit médiatisé pour les faire. Se mettre à quatre pattes, il a fait aussi. Faire ses premiers mots, pareil, en fait, on aurait dit que, ben, en fait, il attendait vraiment d'être avec nous pour tout faire. Et alors, Mélissa a récupéré Nicolas au mois de novembre, donc le 6 novembre. Parce que les contre-expertises, du coup, ne peuvent plus dire avec certitude et exactitude que c'est bien moi qui aurais secoué notre fils. Mais par contre, pour moi, comme il n'y avait plus de placement, j'avais plus de visite médiatisée. Donc, pendant quasiment 53 jours, j'ai pas pu voir mon fils.
Mais vous êtes toujours en examen.
Et moi, oui, je suis toujours mis en examen. Et je le sais, je n'échapperai pas au procès qui aura lieu, quand je peux pas dire, mais parce qu'on est encore en attente d'une autre contre-expertise qui, forcément, pas de surprise, dira sûrement la même chose, enfin du moins la même conclusion, peut-être pas le même corps. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, oui, effectivement, n'en déplaise à certaines personnes, notamment dans le service médical, qui espéraient forcément une séparation, ben non, ça nous a même plus consolidé notre couple et on est encore plus soudés que jamais.
C'était Placement abusif avec un point d'interrogation, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Cécile Lafont. Merci à Maître Grégoire Etriard, à Maître Sophia Albert Salmeron, à Xavier Deleu. Et c'est toujours Sarah Djiriwi qui est la stagiaire des Pieds sur Terre et Camille Richir, l'attachée de production en ce moment.